Hebdo du jeudi 25 octobre 2018 au sommaire, la cybersécurité, coup de projecteur sur un secteur en pleine croissance à l'occasion du symposium sur la défense et la sécurité qui s'est tenu cette semaine à Boucherville. Quelles sont les tendances du secteur en matière d'emploi et de commercialisation au Québec? Des éléments de réponse dans le reportage de Jessica Hébert à découvrir dans quelques secondes. À suivre également l'analyse ces sciences de notre économiste Audrey Azoulay sur le rapport de compétitivité remis cette semaine par le Forum économique mondial. Et enfin, notre invité de deuxième partie d'émission, c'est Jacques Deguise, le célèbre professeur en génie biomédical, vient nous parler du futur de la santé dans le cadre des grandes rencontres organisées cette semaine à Montréal autour des enjeux de santé connectée. Au micro, Philippe Regnoux, c'est l'Hebdo, c'est maintenant. À la une de ce jeudi 25 octobre 2018, la cybersécurité. Cette semaine, un symposium avait lieu à Boucherville sur les enjeux du secteur. Un secteur en pleine croissance puisqu'il croît en moyenne de plus de 10% chaque année au niveau mondial. Salut Jessica.
Salut Philippe.
Alors tu t'es entretenu avec les organisateurs de ce symposium pour mieux comprendre ce qui explique une telle croissance et surtout pour voir si le Québec profite de cette poussée.
Effectivement, et ce que j'ai appris, c'est que le Québec commence à peine à profiter de cette poussée. Cependant, on est encore loin de détenir les grandes parts de marché, surtout sur le plan international. Par contre, les entreprises québécoises s'y intéressent de plus en plus. Plus de 250 personnes provenant majoritairement de PME québécoises ont participé au symposium lundi. C'était la quatrième édition du symposium sur le marché canadien de la défense et de la sécurité, qui implique notamment le volet sur la cybersécurité. Celui-ci est vraiment en pleine expansion, comme tu le mentionnais, notamment parce que les équipements deviennent de plus en plus connectés. La cybersécurité devient vraiment une priorité quand on parle de défense. C'est un volet qui inquiète de plus en plus les compagnies. Selon Suzanne Benoît, la présidente et directrice d'Aéroemploi, l'organisme co-organisateur du symposium, les entreprises sont toujours à l'affût des derniers développements, car il faut s'assurer d'être en avance sur les pirates informatiques. Et là, oui, on parle de la sécurité du web, mais aussi de la sécurité des systèmes informatiques, des équipements autant terrestres, aériens que navals, puisque ces derniers sont interopérables. Par exemple, lors d'une mission, le bateau doit être en mesure de parler aux avions ou encore aux équipes terrain de façon sécurisée. Avec le développement de la cybersécurité, il y a évidemment un énorme manque à combler du côté des emplois reliés au système et à l'informatique, comme l'explique Mme Benoît.
Nous, on recherche énormément d'ingénieurs, de spécialistes, de techniciens, des gens de production, des gens qui ont un volet scientifique, technologique. Puis on recherche aussi des gens spécialisés en logistique pour combler ces postes-là. Puis ça, c'est transverse, dans le sens que si tu es spécialiste en système, tu peux travailler aussi bien en aéronautique comme en naval ou en terrestre.
Alors Jessica, on a bien compris que le Québec n'est pas un gros joueur dans le domaine de la cybersécurité, mais est-ce le même cas pour la défense et la sécurité en général?
Eh bien, les gros contrats en défense du gouvernement fédéral sont coordonnés à des compagnies internationales, car le Canada ne possède pas d'assez gros joueurs. Cependant, les compagnies internationales doivent redonner des contrats de fournisseurs à des entreprises canadiennes pour la même valeur. Et c'est là que ça devient intéressant pour les PME, car souvent, ça représente des contrats financiers qui sont importants. Le Québec détient une toute petite part dans le marché de la défense et de la sécurité. Il y a 4 ans, les opportunités n'étaient presque pas présentes. Maintenant, le Québec détient 21 % du marché canadien de la défense, alors qu'il pourra en détenir près de 50 % selon Mme Benoît d'Aéro-Montréal. Ces 400 entreprises québécoises du domaine de l'aéronautique, du transport terrestre ou naval ou encore en informatique qui sont actives dans le secteur de la défense. Ça demeure vraiment peu, surtout vu la force du Québec en aéronautique. Mais selon Suzanne Benoît, ça s'explique par le fait que les entreprises ont préféré développer le volet commercial. Il faut savoir que pour pouvoir aller chercher des contrats en défense et en sécurité, il faut une certification de spécification militaire. Cependant, c'est en train de changer car les entreprises comprennent que le marché de la défense, eh bien, ça permet d'assurer une pérennité, comme l'explique Suzanne Benoît.
Alors nous, ce qu'on leur dit, c'est que positionnez-vous pour aller chercher votre part de marché parce que il y a énormément d'opportunités qui dorment et qui pourraient être saisies par des compagnies du Québec. La manne, elle passe maintenant, là, faut en profiter. C'est des contrats qui vont durer. Ça vient créer une continuité, ça vient minimiser les risques. Vous savez que vous allez avoir des revenus toutes ces années-là.
Est-ce que les compagnies québécoises, Jessica, bénéficient de soutien pour se promouvoir à l'international, justement?
Eh bien, ce n'est pas un domaine qui est facile à pénétrer. Les compagnies québécoises ont de la difficulté à se faire connaître. Les compagnies sont de plus en plus appuyées par le gouvernement, notamment à travers Export Québec. Aéro-Montréal a également mis un portail en ligne qui permet aux 400 entreprises pouvant travailler en défense et en sécurité de pouvoir présenter leurs services et de voir les offres des grands maîtres d'œuvre internationaux. Le gouvernement fédéral a d'ailleurs alloué du financement à Aéro-Montréal afin d'embaucher des consultants pour aider les PME à obtenir les certifications nécessaires. Par contre, il reste encore du chemin à faire pour devenir un joueur majeur.
Merci Jessica. On suivra aussi attentivement, je pense, l'approche du nouveau gouvernement provincial en la matière. Salut Audrey.
Bonjour Philippe.
Alors que ce jeudi, la sous-gouverneure de la Banque du Canada, Caroline Wilkins, appelle à plus de productivité, tu t'es arrêtée justement sur le rapport compétitivité 2018 du Forum économique mondial, publié il y a quelques jours. Et ce qu'on y apprend, c'est qu'en la matière, le Canada régresse, puisqu'il se classe au 12e rang mondial, deux places de moins que l'an dernier.
Alors, ce rapport mérite d'être feuilleté, d'abord parce qu'il nous rappelle pourquoi le bien-être de la population passe par la performance économique. C'est une évidence. Ce qui l'est moins, c'est la facilité avec laquelle on va croître dans l'avenir. Le rapport rappelle l'importance de compléter les grandes réformes et, en cette période de grandes mutations, de se coller aux repères d'une croissance soutenable, inclusive et durable. Alors, parmi les 12 grands piliers de la compétitivité, ces piliers-là qui définissent notre capacité de croître à long terme, alors il y a naturellement celui de la capacité d'innovation. Et justement, une des grandes conclusions de ce rapport et qui préoccupe les auteurs, c'est que sur les 140 pays considérés, 103 ont une maîtrise clairement faible des processus d'innovation, de la création d'idées et de la commercialisation. Alors en général, cette inquiétude n'est pas tournée vers les pays les plus riches, mais le rapport montre tout de même un écart remarquable entre le score médian et les trois grands champions de l'innovation, que sont l'Allemagne, les États-Unis et la Suisse. Un écart assez grand pour que les auteurs se soient interrogés dans cette édition sur ce que pourrait être la bonne formule de l'innovation.
Alors à ce chapitre, celui de l'innovation, le Canada se classe au 13e rang. Quelle solution pour faire mieux ?
Alors pour y répondre, sélectionnons quelques données. Le Canada est en première place mondiale pour la diversité de sa force de travail, ce qui est favorable à la créativité et aux nouvelles idées. Le Canada se classe également bien pour les publications scientifiques, pour la qualité de ses instituts de recherche ou encore au niveau des partenariats internationaux pour de nouvelles inventions. Là où on pourrait peut-être aller chercher quelques points, c'est au niveau de la recherche et développement en pourcentage du PIB, également sur le développement de ses grappes industrielles. Aussi, au niveau des pratiques de collaboration en innovation, comprenez ici la coordination de l'écosystème, eh bien, on est à la 24e place alors que les États-Unis sont en première place mondiale. Ce n'est pas tout, l'écosystème de l'innovation doit aussi compter sur l'écosystème entrepreneurial, sur quoi repose une grande partie de la commercialisation. Pour la croissance des entreprises innovantes et le nombre d'entreprises contribuant à des innovations de rupture, le Canada occupe la 25e et la 28e place. Et enfin, dernier point, et non le moindre, l'attitude entrepreneuriale face aux risques. Le Canada occupe la 31e place. Cet aspect n'est pas anodin avec les riches effets de l'interaction et de la diversité. Le rapport du Forum économique mondial tranche sur un aspect indéniablement commun aux pays super innovateurs, la culture entrepreneuriale.
Merci Audrey.
C'est
Jessica, cette semaine, d'autres sujets d'actualité qu'il ne fallait pas rater. Et la sécurité, encore. Mais là, il s'agit de sécurité dans le commerce électronique pour les PME canadiennes. Et visiblement, bah, pour eux, ça devient une préoccupation majeure.
Oui, le nouveau rapport de PCSafe, publié mardi, nous apprenait que la sécurité est maintenant plus importante que la fiabilité pour les commerçants en ligne. L'inquiétude première des commerçants concerne les paiements sans contact via des applications, par exemple. C'est 47 % des PME canadiennes qui font du commerce en ligne qui craignent que les paiements sans contact les rendent plus vulnérables aux fraudes. Cette inquiétude est également renforcée par le fait que les marchands ont aussi le sentiment d'être plus ciblés par les fraudeurs comparativement à l'an dernier. C'est du moins l'avis de 73 % des personnes interrogées. Ainsi, la sécurité devient maintenant le facteur le plus important lors de la configuration des commerces électroniques, se classant devant la fiabilité par plus de 20 %. En contrepartie, l'ajout de mesures de sécurité inquiète également les marchands. 67 % des commerçants interrogés craignent que le processus de vérification plus long lors de la phase de paiement leur fasse perdre des consommateurs. Les paiements sans contact deviennent donc de plus en plus importants et les marchands canadiens reconnaissent la nécessité d'adopter de nouveaux modes de paiement. Les applications mobiles sont l'une des méthodes les plus attendues. 41 % prévoient les proposer au cours des deux prochaines années, comparativement à 15 % actuellement.
On rappelle, on vous invite à commenter l'actualité recherche et innovation sur notre plateforme cscience.ca ou bien sur notre page Facebook. Merci Jessica. C'est l'heure de notre invité et cette semaine, Audrey, on reçoit le professeur Jacques de Guise.
Oui, Jacques de Guise, professeur titulaire au département de génie de la production automatisée de l'École des technologies supérieures. Il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en imagerie 3D et ingénierie biomédicale. Il dirige également le laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie, le LIO.
Jacques de Guise, bonjour.
Oui, bonjour.
Cette semaine s'est tenue une grande conférence à Montréal sur le futur de la santé, sur les impacts de cette grande révolution qu'amène l'Internet des objets, la robotique, le big data, l'info nuagique. Alors ce futur semble plein de promesses pour le progrès médical, mais il provoque aussi des craintes. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur?
Bon, je ne pense pas qu'on ait raison d'avoir peur. Évidemment, derrière toutes ces technologies, il y a des humains. Alors, il y a le côté de l'humain qui peut proposer des solutions qui sont intéressantes pour l'humain. Puis il y a toujours des humains qui vont aussi aller du côté obscur de la science.
La force obscure, la fameuse.
La force obscure, si on peut parler comme ça. Donc, pour moi, bien non, on n'a pas à avoir la crainte de ces nouvelles technologies comme on n'a pas eu à avoir la crainte dans le passé.
Alors, vous dirigez le laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie, on le rappelle, le LIO. C'est un laboratoire universitaire qui est lié à l'École des technologies supérieures. Vous êtes donc des ingénieurs au service de la santé. J'ai été voir votre site web, il y a une liste de spécialités médicales absolument impressionnante. Alors, juste pour le plaisir, est-ce que vous pourriez nous partager vos plus belles avancées?
Bon, nous, on a un grand privilège. On est effectivement des ingénieurs, des chercheurs dans le domaine du génie, de la santé. Et notre premier privilège, c'est de pouvoir avoir nos laboratoires en site hospitalier universitaire, ce qui nous rend beaucoup plus près des utilisateurs.
Les préoccupations, finalement, des usagers. Oui.
Exactement. Mmh. Et on a développé tout un écosystème qui permet de répondre aux besoins des professionnels de la santé. Donc, voilà, c'est cet aspect-là qui nous préoccupe, c'est d'être sur les sites où on a besoin des technologies pour répondre aux besoins des usagers, que ce soit des professionnels de la santé, des patients et même des partenaires industriels.
Oui, on dit souvent que les professionnels de la santé sont les experts de la maladie, les patients, leurs proches sont les véritables experts de la vie avec la maladie. Est-ce que c'est ça justement que vous servez à cette philosophie-là avec justement ce travail hors les murs en quelque sorte?
Oui, tout à fait. C'est d'intégrer l'ensemble des acteurs de l'innovation. L'innovation, pour nous, c'est de l'idée jusqu'à un produit qu'on peut amener au chevet du patient. Et tous les acteurs doivent être présents, à notre avis, dès le début du projet, dès la genèse du projet. Donc, nous, ce qu'on a développé dans le cadre de notre laboratoire, c'est vraiment une approche de laboratoire vivant où les patients, les professionnels de la santé, les ingénieurs, les industriels vont travailler ensemble à développer des nouveaux produits, des nouvelles modalités d'intervention au service des patients, justement, et de la santé.
Monsieur de Guise, vous n'avez pas répondu à ma question.
Oh, désolé.
Non, pour rendre ça plus concrètement, parce que ça a l'air vraiment passionnant, quelques exemples d'avancées.
On revient effectivement à votre question. J'ai d'abord situé le contexte. Oui, on a eu le privilège de développer quelques technologies qui sont aujourd'hui au chevet du patient. On a travaillé avec un groupe français, dont le prix Nobel de physique, Georges Charpak, et on a construit avec lui, on a proposé un nouveau système de radiographie à très, très basse dose qui, à partir de seulement deux radiographies, permet d'aller chercher l'ensemble des informations 3D du squelette humain. En particulier pour les enfants qui ont des scolioses. Donc, la première application, ça a été dans notre hôpital ici à Montréal, pédiatrique, Sainte-Justine. Maintenant, c'est plus de 300 systèmes qui sont en service un peu partout dans le monde. Et on continue à travailler avec la compagnie qui, au départ, est française, mais qui vient de créer une filiale à Montréal depuis à peu près 5 ans pour se rapprocher de notre groupe de recherche et continuer à développer avec eux et inclure les approches d'intelligence artificielle que vous avez évoquées au tout début. C'est une première technologie. Il y en a une seconde qu'on appelle le NIKI-G en anglais. C'est pour la graphie de la cinématique du genou. Donc, c'est une technologie qui permet l'évaluation en mouvement du genou et donner une information fonctionnelle. Quand on a mal au genou, c'est pas quand on est assis comme là, nous.
La genographie, en quelque sorte.
La genographie, c'est ça, qui permet d'aller chercher la signature du mouvement du genou. Et elle aussi, cette technologie-là, est au chevet du patient maintenant.
Mais alors, Jacques de Guise, moi, je vais revenir à l'environnement, parce que le contexte, parce qu'il est très intéressant aussi. On parle là beaucoup d'innovation dans le domaine technologique et des technologies. Quand on parle de futur de la santé aussi, de manière général, mais vous, vous pratiquez et vous êtes un fervent défenseur de ce qu'on appelle l'innovation ouverte. Ce fameux travail collaboratif qu'on a quelque part à aborder, justement, c'est quoi qui caractérise cette innovation ouverte? C'est cette collaboration, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments? Et là aussi, est-ce qu'il y a des exemples concrets de ce qui caractérise cette innovation
ouverte? C'est le travail, c'est exactement le travail, ce qu'on appelle un laboratoire vivant, c'est à peu près synonyme innovation ouverte et laboratoire vivant. Donc c'est, comme on le disait un peu plus tôt, c'est d'intégrer tous les acteurs de l'innovation dès la genèse d'un projet. Donc évidemment, les ingénieurs, les informaticiens, on crée les outils, on crée les modalités d'intervention, mais essentiellement avec aussi les cliniciens. Nous, dans notre laboratoire, 100% de nos projets, on a des cliniciens qui leur sont associés. Et pour assurer un transfert vers l'industrie, on a des partenaires industriels qu'on inclut aussi très tôt dans le processus, au tout début du processus. Donc, c'est vraiment l'innovation ouverte où tous les acteurs sont ensemble pour créer les nouveaux produits ou les nouvelles façons d'intervenir.
Est-ce que c'est un exemple de cette notion de partenariat de soins dont on parle de plus en plus? Est-ce que ça la caractérise?
De plus en plus, oui. C'est ces partenariats de soins où on essaie aussi d'intégrer, quand c'est possible, des patients, qu'on appelle des patients experts ou des patients partenaires. D'ailleurs, ici au Québec, on a créé quelque chose qui est à peu près unique au monde. On parle du modèle de Montréal. Je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais c'est le centre d'excellence en partenariat avec les patients et le public. Et c'est un centre qui est associé à la Faculté de médecine et au Centre hospitalier de l'Université de Montréal et qui propose l'intégration des patients dans les épisodes de soins. Donc, des patients qui viennent aider les équipes soignantes avec leur expérience de leur maladie et qui accompagnent les équipes soignantes là, auprès des patients qui sont pris avec ces problèmes-là.
Oui, c'est ça, ce fameux modèle Montréal, ce qui la caractérise, c'est équilibre entre approche entrepreneuriale pragmatique, rigueur académique universitaire, et puis défense des droits des patients et co-construction empathique. C'est ça la définition qui est donnée, mais visiblement...
C'est une excellente définition.
Puisqu'on parle de collaboration, continuons. La recherche partenariale, donc le LIO, l'expérimente depuis 20 ans, là, c'est pas nouveau. On parle finalement de partenariat public-privé. Il y a des enjeux, effectivement, de financement. Le partenariat public-privé en santé, ça n'a pas toujours un écho très positif, mais finalement, est-ce que ça serait le meilleur modèle?
Pour nous, c'est un modèle qui est extraordinaire parce que nous, on est des universitaires, on tient à faire de la recherche, on tient à contribuer à un nouveau savoir, mais on tient aussi, par la mission qu'on s'est donnée, de prendre nos idées qui sont développées dans nos laboratoires, qui sont des contributions à des nouveaux savoirs, mais les amener au chevet du patient. Et ça passe nécessairement par la commercialisation. Et aujourd'hui, il y a des modes de financement qui sont vraiment intéressants, font du Canada, du Québec, de Montréal, un des endroits où c'est le plus intéressant pour des entreprises de faire de la recherche avec des universitaires. Il y a des programmes qui permettent de bonifier les mises de fonds que sont prêtes à faire les entreprises, les multiplier par 2, par 3, par 4, et qui permettent justement, au lieu d'avoir un seul étudiant qui travaille sur un projet pour une entreprise, mais c'est d'avoir toute une équipe de recherche pendant des années qui vont contribuer ensemble à développer des nouveaux produits, des nouvelles modalités d'intervention. Avec chacun notre mission. Les universitaires, notre première mission, c'est évidemment de contribuer au nouveau savoir, mais de former du personnel hautement qualifié. Les entreprises partenaires, leur mission, c'est d'avoir un succès commercial. Et si leur succès commercial est obtenu grâce aux partenariats qu'ils ont eu avec les universités, ça va permettre des développements durables, des projets durables, des maillages durables. Mmh. Nous, par exemple, on a des entreprises avec qui on travaille depuis plus de 20 ans. Et qui permettent justement, encore une fois, de remplir chacun notre mission. Et la mission universitaire, c'est de former du personnel hautement qualifié et de contribuer au nouveau savoir.
Alors justement, il y a 20 ans, vous parliez déjà d'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, évidemment, aujourd'hui, en particulier à Montréal. Beaucoup d'argent, c'est peut-être ce qui a changé d'ailleurs, est investi actuellement dans le domaine, notamment pour des applications en santé. Mais cette semaine, dans le supplément du Devoir qui était consacré au sujet, presque un appel au secours, en l'occurrence celui de Joëlle Pinault, qui est directrice du laboratoire de recherche en intelligence artificielle qui est mis en place par Facebook. Elle dit « on a de l'argent, mais on manque de main-d'œuvre, en particulier de main-d'œuvre opérationnelle, c'est-à-dire celle qui fait tourner les outils développés dans les laboratoires de recherche. Vous, dans votre laboratoire, le LIO, est-ce que vous faites le même constat? Est-ce qu'il vous manque de la main-d'œuvre opérationnelle? »
Pour le moment, on est très chanceux, on va se croiser les doigts.
Allez, on croise tous les doigts.
Mais on est une cinquantaine seulement au CHUM dans notre laboratoire. On réussit à attirer des étudiants qui sont intéressés par les problèmes de santé, par le fait qu'on est sur site hospitalier universitaire, puis comme vous le savez, à Montréal, on a 3 sites hospitaliers universitaires tout neufs, donc des locaux extraordinaires qui mettent à notre disposition des infrastructures uniques. Et donc ça, c'est une des premières façons d'attirer des étudiants. On travaille avec ces nouvelles approches, ces nouvelles technologies-là, et on développe des nouveaux dispositifs, des nouvelles technologies, encore une fois, pour améliorer la santé des gens. Et donc, c'est tous des effets attractifs pour des étudiants, pour des assistants de recherche qui viennent d'un peu partout dans le monde. Évidemment, nous, on travaille en français. On est très fiers de parler français et de faire de la recherche en français.
Il n'y a pas de honte à ça, au contraire.
Au contraire, et nous, c'est un des drapeaux qu'on lève. Et on attire de toute la francophonie des étudiants, des chercheurs qui viennent travailler avec nous.
Justement, quel profil vous recherchez?
On cherche des programmeurs. On cherche des gens qui aiment les défis, qui aiment travailler en équipe pluridisciplinaire, intersectorielle. On aime les gens curieux. On aime les gens qui, justement, aiment relever ces défis et sortir d'une zone de confort. On n'est pas dans un laboratoire, dans une école d'ingénieurs. On est dans un laboratoire sur site hospitalier où tous les jours, on côtoie des médecins, des patients et des professionnels de la santé. Donc, en dehors du cadre, et souvent, les gens qu'on attire, c'est des gens qui ont cette curiosité, qui ont ces réflexes là, de s'ouvrir au monde. Et ça nous fait des équipes là, d'une richesse là, vraiment impressionnante.
Quand on parle d'intelligence artificielle, on pense à toutes ces médicales. En tout cas, on pense à toutes ces promesses là pour mieux prévenir et pour mieux soigner. Maintenant, de manière un peu plus pratico-pratique, les coûts de la santé ne dégonflent pas et ne vont pas dégonfler. A priori, quelles sont les promesses des technologies pour laisser le système de santé viable? Parce que c'est aussi un enjeu de santé, ça.
Bon, ça, c'est une grande question pour un chercheur comme moi. C'est souvent un peu plus difficile de répondre à ces questions-là, mais on a quand même certaines réflexions à ce niveau-là. C'est que toutes ces méthodes, ces techniques qui vont appliquer l'intelligence artificielle vont permettre aux médecins de délaisser des tâches chronophages qui sont répétitives et qui ne sont pas nécessairement utiles immédiatement aux patients. Donc, toutes ces tâches qui prennent du temps qui peuvent être automatisés, ben, vont permettre aux médecins de consacrer plus de temps au patient, à la personne, et de mieux amener ces pratiques de soins
pour optimiser.
C'est ça, ces pratiques de soins. Mmh. Et pouvoir, justement, ben, passer le meilleur temps possible pour améliorer l'état de santé de son patient et peut-être ainsi minimiser les soins parce qu'il y aura moins de temps d'attente, il y aura moins d'erreurs, il y aura moins de mauvaises directions vers le mauvais spécialiste. Bon, je dirais pas mauvais spécialiste, mais vers le spécialiste qui est pas qui devrait pas être attitré à ce patient-là. Donc, je pense qu'on peut optimiser les soins de santé en première ligne pour mieux diriger les patients et mieux répondre à leurs besoins avec ces techniques.
Merci Jacques Deguise. Je rappelle et je prends une grande respiration. Vous êtes entre autres professeur titulaire au département de génie de la production automatisée de l'ETS, professeur associé au département de chirurgie de la faculté de médecine de l'Université de Montréal et vous dirigez le laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie affilié au centre de recherche du CHUM, du CHU Sainte-Justine et de l'hôpital du Sacré-Cœur. Et j'en oublie. Grand merci. Allez, avant de se quitter, Jessica, ton top 3 des infos pratiques pour la semaine qui vient.
L'Oncopole organise son premier symposium. Ce sera l'occasion de découvrir les initiatives qui sont financées par l'Oncopole. Je vous rappelle que l'Oncopole, c'est le pôle de recherche, de développement et d'investissement pour accélérer la recherche sur le cancer au Québec. L'événement traitera aussi des avancées concernant le développement des médicaments et de l'immuno-oncologie. Le symposium a lieu le 1er et 2 novembre prochain à l'hôtel Yacht Regency à Montréal. Deuxièmement, l'Agence de revenus du Canada organise un atelier pour les compagnies qui travaillent en recherche scientifique et développement expérimental dans les technologies de l'information. Il s'agit du premier atelier d'une série où les compagnies pourront obtenir de l'information pour les aider à recevoir la totalité des crédits auxquels elles ont droit du programme de RSDE de l'Agence de revenus du Canada. Les compagnies pourront aussi discuter directement avec des représentants de l'ARC. L'atelier est séparé en 2 sessions distinctes, celle de l'avant-midi pour les directeurs techniques, financiers et les vice-présidents, et une en après-midi pour les gestionnaires techniques de projet. L'atelier aura lieu à Montréal de 8h30 à 16h le 1er novembre prochain. Et finalement, il y aura également une conférence sur les différentes solutions de financement des institutions financières internationales. C'est organisé par Export Québec en collaboration avec Québec International. Le but est de présenter les différents projets qui peuvent être financés par les banques de développement et d'expliquer le processus d'achat et de passation de marché des institutions financières internationales. La conférence a lieu le vendredi 2 novembre de 8h à midi au restaurant Michelangelo du côté de Québec et il faut s'inscrire pour pouvoir y participer.
Et je vous rappelle que ce top 3 est consultable dans le détail sur votre plateforme d'information cscience.ca. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur ces quelques notes de True Story de l'artiste Ibrahim Maalouf. C'est le choix de notre directrice de production, c'est ça, Lucille, qu'on salue au passage, parce qu'on sait qu'elle nous écoute. C'est notre recommandation de la semaine pour vos travaux de recherche en labo. Merci Jessica, merci Audrey, merci Jacques Deguise d'avoir été des nôtres cette semaine. À la réalisation technique, Nchiche Dumbia et toute l'équipe de GTS. À la recherche, Sophia Samy et à la coordination plateau, Eve Jasmin. Philippe Regnoux au micro, c'est l'hebdo. C'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain. D'ici là, bonne semaine à tous.